Bienvenue dans Plan B, le podcast mensuel qui va à la rencontre de ceux qui aiment et qui vivent grâce et pour les crypto-monnaies. Je m'appelle Roxane et je suis l'hôte de ce podcast et dans cet épisode, j'ai eu l'honneur d'interviewer Arthur Bretman.
Arthur, un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Tu es le cofondateur de Tezos avec ton épouse. C'est une crypto-monnaie au même titre que Bitcoin ou Ethereum et ce depuis 2014. Avant de devenir un entrepreneur à succès au sein de la cryptosphère, tu as travaillé à Wall Street dans des grandes banques telles que Goldman Sachs ou Morgan Stanley. Et tu es aussi passé faire un petit tour chez Google X, qui est un des laboratoires semi-secrets de Google. Autant te dire, Arthur, que tout ça est très impressionnant et que j'ai hâte de pouvoir partager ton histoire avec nos auditeurs. Bonjour Arthur.
Bonjour Roxane.
Alors, j'aimerais débuter cet entretien avec la question que j'affectionne le plus, qui est celle de savoir à quel moment tu as entendu parler pour la première fois des crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin ou autre, et quel a été ton ressenti à ce moment-là ?
Alors, le concept des crypto-monnaies, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait avant Bitcoin. Je pense donc peut-être vers 2007-2008, mais je m'étais pas intéressé très près, mais je connaissais quand même le concept, mais j'avais pas regardé les questions techniques qui existaient autour. Bitcoin, j'en ai entendu parler très très tôt, mais j'ai pas du tout fait attention. J'ai commencé à me repencher sur Bitcoin uniquement, on va dire vers 2011-2012, quand ça a commencé à prendre un petit peu plus d'ampleur.
Tu as découvert les cryptos avant même Bitcoin, mais du coup ça s'est passé comment ? C'était quoi alors avant Bitcoin ?
Bah, c'est dans la lecture, par exemple, il y avait le concept de, il y avait le e-cash de Shaum, il y avait DigiCash, il y avait plusieurs techniques de monnaie virtuelle qui avaient été décrites et c'est un concept qui m'intéressait profondément. Il y avait aussi, je m'étais intéressé au concept de monnaie privée qu'on voit chez Hayek, par exemple. Donc c'était un sujet qui m'intéressait.
Et ça t'intéressait pourquoi ? Qu'est-ce que ça venait susciter chez toi ?
Ça m'intéressait d'un point de vue économique. Je pense que réfléchir à ça, ça permet d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de la monnaie et de son rôle dans l'économie, d'une part. Et d'autre part, ça s'alignait aussi avec ma philosophie politique.
Qu'est-ce que c'était ta philosophie politique ?
Essentiellement, une philosophie politique est centrée sur la liberté individuelle. Et donc, je pense qu'une... Avoir le choix d'utiliser la monnaie qu'on souhaite, c'est quelque chose qui fait partie des libertés individuelles.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que je pense que nos éditeurs ne connaissent pas très bien, enfin, ni moi-même, en fait, ce type de philosophie.
Bah, c'est essentiellement, c'est une philosophie qui a ses racines, on va dire, dans le libéralisme classique. Donc des gens comme John Locke, par exemple, qui a été poursuivi après, notamment aux États-Unis, dans les courants libertariens.
D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier comparé à celle que nous, on connaît, tu vois, avec le capitalisme, par exemple ?
Le problème, c'est que le capitalisme est un mot qui est un petit peu surchargé. Les gens y apportent une connotation qui varie en général. Mais disons que c'est un principe philosophique qui part de l'idée de la non-agression, c'est-à-dire que d'agresser les gens est une mauvaise chose. Et donc c'est fondé sur le respect des gens et de leur propriété.
D'accord. Est-ce que cette philosophie porte un nom ? Est-ce que c'est le cyberpunk ou est-ce que c'est l'anarchisme ou c'est quoi ?
Non, alors il y a des intersections, on va dire. Donc on appelle ça parfois le libertarianisme. Mm-hmm. Il y a des mouvances libertariennes qui sont anarchistes et donc qui concluent de manière générale que la seule organisation politique qui soit compatible d'un point de vue éthique avec l'absence d'agression, c'est l'anarchie, puisque dans tout système de gouvernement, il y a forcément une dose de coercion. Donc, toutes les mouvances libertariennes ne sont pas anarchistes, mais il y a définitivement des mouvances anarchistes dans les courants libertariens. Et le cyberpunk, je pense que le cyberpunk, ça couvre plusieurs idéologies politiques. Je pense qu'il y a des cyberpunks qui sont effectivement libertariens ou anarchistes, mais il y en a aussi qui voient ça plus comme une défense personnelle contre les gouvernements, mais aussi, par exemple, les grandes entreprises ou les grandes puissances industrielles. Donc c'est assez varié, je pense que c'est la mouvance cyberpunk est plus autour du respect de la vie privée.
D'accord. Et à quel moment de ta vie tu as découvert cette philosophie? Est-ce que c'est familial? Est-ce que tu l'as découvert tout seul à travers les livres? Comment ça s'est passé?
Non, j'ai découvert progressivement à partir des amis, on va dire vers 2004, j'ai commencé à m'intéresser, puis je suis tombé sur dans les livres après, à partir de 2007.
Justement, toi, tu as travaillé dans les grandes banques. Est-ce que c'est pas un peu, en opposition justement d'avoir ce type de philosophie et d'aller travailler à Wall Street?
Alors, de toute évidence, dans ces mouvances, on va trouver des gens qui sont très opposés aux grandes banques, qui voient ça comme un fer de lance de l'État, quelque chose d'assez démoniaque. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense que d'une manière générale, dans toute banque, il y a énormément de secteurs d'activité différents. Et les secteurs d'activité de la banque sur laquelle j'étais sont des secteurs, je pense, qui étaient productifs, qui apportaient de la valeur à l'économie, et donc j'étais fier de travailler dedans, et je voyais pas d'opposition à être en banque. Je pense qu'il y a beaucoup de démonisation de Wall Street qui est à mon avis à contre-tort, parce que c'est parfois difficile en dehors de la finance de comprendre à quoi sert la finance, ce que fait la finance, et donc de l'extérieur on peut avoir l'impression que c'est rien du tout, alors qu'en fait il y a la valeur. Ceci dit, ça n'est pas complètement non plus sans base, puisque la dévaluation, par exemple, de la monnaie, l'inflation, elle passe toujours d'abord par les banques. Donc, quand il y a un effet d'inflation dans l'économie, en général, il y a tendance à enrichir les banques d'abord, et puis après à percoler dans l'économie, et puis à faire hausser les prix. Donc, il y a effectivement cette position-là, mais in fine, c'est quand même les banques centrales qui choisissent ce système. Et donc, je ne pense pas que la banque puisse être jugée comme responsable du système dans lequel elle est placée.
D'accord, merci pour ces petites précisions. Je voudrais revenir à Bitcoin. Donc, tu dis l'avoir découvert assez tard, donc 2011. Est-ce que tu te souviens le jour où tu as entendu vraiment parler de Bitcoin et où tu t'es dit, ça y est, maintenant, je veux m'investir? Donc, tu me disais que tu avais entendu parler, puis que tu as laissé ça un peu de côté. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, ça t'a vraiment intéressé?
Déjà, quand on m'avait parlé de Bitcoin au début, on m'avait dit des choses fausses sur Bitcoin. Et on m'avait dit des choses fausses en fait pour me dire que c'était bien. C'est-à-dire, les gens me disaient, ouais, regarde, c'est super, c'est backé par de l'énergie. Et je me suis dit, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ça n'est pas backé par l'énergie, hein, parce qu'on ne peut pas prendre un Bitcoin et le transformer en énergie. Donc, c'est différent. Et j'avais des idées assez arrêtées sur ce que devait être une monnaie. Et pour moi, c'était justement la monnaie idéale, elle était backée par rien du tout. Ce qui est le cas pour Bitcoin. Mais comme on m'avait dit c'est backé par l'énergie, je ne m'étais pas intéressé. Quand ça a commencé à monter un petit peu plus en notoriété, quand les gens ont commencé à faire du commerce en ligne avec Bitcoin, ce genre de choses-là, j'ai commencé à m'intéresser en disant, tiens, il y a effectivement un mouvement ici, il y a quelque chose. Et donc, c'est là que j'ai regardé et que je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire avec Bitcoin. Et une des premières choses qui m'est venue en tête, c'était de développer des places de marché internationales qui fonctionneraient avec du Bitcoin en dehors du système bancaire.
Tu partageais ces idées avec des amis à toi ou tu étais plutôt un geek tout seul dans ta chambre en train de te dire « Ah, je vais fabriquer quelque chose comme ça ».
Non, pas du tout. J'avais pas mal d'amis qui partageaient ce genre de choses-là. J'organisais à New York des déjeuners déjeuner de philosophie politique, donc on y parlait beaucoup de Bitcoin. Et donc non, j'étais pas seul là-dessus.
Et donc lors de ces déjeuners philosophiques politiques, vous rêviez à créer des places de marché. Et est-ce que vous avez fait d'autres petits
projets? Ça c'est en dehors. Ça c'est des idées que j'avais vues. J'en avais parlé à quelques personnes. De manière générale, ces dîners, c'était plutôt sociaux, en fait. C'était plus une occasion de faire une bouffe, on va dire, que nécessairement de changer le monde. Mais ça a amené à parler de Bitcoin.
D'accord. Et est-ce qu'avant Tezos, du coup, à ce moment-là, au début de ta trentaine, vous avez créé des petits projets liés, des petits projets entrepreneuriaux liés aux crypto-monnaies, à Bitcoin, etc.?
Oh, plutôt des projets de code, oui. J'avais codé un échange, un système d'échange de futur basé sur Bitcoin. J'avais codé aussi différents utilitaires, mais il y a rien qui a vraiment vu le jour. C'est-à-dire que c'était juste pour c'était surtout pour découvrir un petit peu.
Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours scolaire, universitaire? C'est quoi ta formation?
J'ai fait mes études en France. Je suis passé par les classes préparatoires. Je suis rentré à l'école polytechnique où j'ai étudié des maths appliquées et de l'informatique. Après quoi, je suis parti faire une année d'application qui a été un master's en finance mathématique à NYU, à New York. Et après quoi, je suis rentré en finance. Et donc, je dirais que mon domaine d'expertise, on va dire, si j'en ai un, c'est principalement les statistiques.
D'accord. Et quand tu étais enfant ou adolescent, est-ce que c'était déjà ça que tu voulais faire, des maths?
Moi, je voulais être inventeur quand j'étais enfant. C'est pas de problème, mais j'ai toujours beaucoup aimé les maths.
D'accord. Et quand tu dis inventeur, tu aurais aimé inventer quoi? Donc, tu avais déjà, en fait, un esprit un peu avant-gardiste, on va dire.
Ben, un peu tout. J'avais des cahiers brouillons. Le modèle, on va dire, c'était Géotrouve-tout. Géotrouve-tout, c'est un personnage des bandes dessinées de Donald.
D'accord. Parce qu'en fait, finalement, se lancer corps et âme dans un projet de création de blockchain à une époque où peu de gens comprennent ce que c'est vraiment, c'est assez audacieux.
Oh, ben non, je pense que moi, quand j'ai commencé à faire ça, ça commençait déjà. Enfin, pour moi le succès général du secteur, je n'avais pas beaucoup de doutes sur son succès général, donc c'était intéressant de faire quelque chose dedans.
Du coup, maintenant, je voudrais parler de ton histoire d'amour, parce que quand même, elle est quand même fort liée à ta profession aussi. Les histoires d'amour, ça a occupé toute mon adolescence, donc je ne pouvais pas passer à côté de ça. Ta cofondatrice, elle s'appelle Kathleen, c'est une Américaine, et vous avez cofondé ensemble Tezos. Alors, je voudrais savoir comment tu l'as rencontrée, qu'est-ce qu'elle a comme background pour avoir cofondé ça avec toi. Et voilà, juste un peu, qu'est-ce que ça fait de travailler avec elle? Où est-ce qu'elle en est maintenant dans ses projets? J'ai cru comprendre qu'elle développait, qu'elle était partie un peu développer des choses de son côté au niveau des jeux vidéo, etc. Est-ce que tu peux me parler de tout ça?
Donc, j'ai rencontré Kathleen en 2010 par un ami commun. Et puis, je l'ai d'ailleurs invité à un de ses déjeuners philosophiques, sans donner vraiment les détails de ce dont il s'agissait. Et elle était à l'époque, donc elle était étudiante en philosophie.
Ah oui, donc ça lui parlait complètement ce que tu lui proposais comme déjeuner. Voilà. Mais donc elle n'a pas de background technique comme toi tu l'as.
Non, c'est moi le technicien.
D'accord. Et donc comment est-ce que une philosophe a réussi à rentrer dans le monde des crypto-monnaies et de se dire je vais créer une boîte avec mon compagnon et on va créer une boîte un peu concurrente à Bitcoin, à Ethereum et tout ça?
Alors Tezos, ce n'est pas une boîte, hein. Ça, c'est faux. Il faut comprendre, ni Bitcoin ni Ethereum, ce ne sont pas des boîtes, ce sont des réseaux. Finalement, le projet Tezos, il est assez imbu de philosophie, hein. Il part sur des principes de philosophie de gouvernance, il part sur des principes de la relation que les gens peuvent avoir avec la monnaie, avec la société. Donc il y a tout un ensemble de principes philosophiques qui sont très importants dans Tezos. Ce n'est pas qu'un projet technique, c'est aussi un projet philosophique.
Tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, bien sûr. Donc un des piliers de Tezos, c'est le concept de gouvernance et d'auto-amendement. Cette idée d'auto-amendement, elle a été développée par Peter Suber, un philosophe, mais on la trouve aussi dans beaucoup de philosophes mathématiques. On la trouve chez Gödel, on la trouve chez Quine. C'est l'idée de comment est-ce qu'un système qui a un ensemble de règles fixes peut changer ses règles. Et la manière en fait de faire ça, c'est que le système paramétrise ses propres règles et a des règles pour modifier ses règles. Donc on voit ça par exemple dans les constitutions. La plupart des constitutions ont des mécanismes d'amendement. Donc c'est de l'auto-amendement, et c'est le principe de cette chaîne, c'est-à-dire on essaie de résoudre le paradoxe, de savoir comment est-ce qu'on peut avoir une chaîne où les règles sont fixes, où les règles sont connues, et qui pourtant ait la flexibilité d'évoluer. Et c'est ça qu'essaie d'adresser Tezos.
Tu me perds un peu, mais d'accord.
Bah, par exemple, si on prend une chaîne comme Bitcoin a été créée avec la propriété explicite que ces règles ne devaient jamais changer. Les règles de Bitcoin ne sont censées jamais changer. Mais il y a des innovations techniques qui existent, et au vu de ces innovations techniques, comment est-ce que Bitcoin peut rester technologiquement dominant? Alors on peut dire ça ne compte pas finalement, La technologie n'est pas si importante que ça, et la technologie de Bitcoin est suffisante. Mais si on juge que la technologie est en effet importante, eh bien, il doit y avoir des mécanismes. Et la plupart des mécanismes de gouvernance qui existent aujourd'hui dans les crypto-monnaies sont des systèmes de fourche. C'est-à-dire que les gens vont décider de dire on va faire deux versions, et puis les gens utiliseront la version qu'ils préfèrent. Ça, c'est un petit peu un point de vue naïf, parce que les gens n'utilisent pas pour une... Si c'était un logiciel, un réfrigérateur, les gens pourraient très bien dire j'achète la marque de frigo qui me convient. Mais pour une monnaie qui est basée sur le fait de réseau, la marque qui me convient ou la version qui me convient, c'est celle qui convient à tout le monde. Et donc, au final, on a un effet de réflexion où les gens n'ont pas tellement intérêt à choisir ce qu'ils préfèrent, mais à choisir ce qu'ils devinent que les autres vont préférer. Et au final, les choix se font non pas sur du mérite, mais sur des attentes sociales et des attentes subjectives. Et avoir un modèle de gouvernance plus explicite que ça, où les gens peuvent dire explicitement ce qu'ils préfèrent et baser les décisions là-dessus, ça permet d'éviter ce genre de choses.
Donc, c'était très important pour toi. En fait, finalement, même les crypto-monnaies en général, elles ont toute une philosophie derrière. Ce n'est pas juste de la technique.
Oui, non, bien sûr.
Et donc, c'est comme ça que tu as accroché Kathleen, c'est en lui parlant de la philosophie.
Je pense, oui.
Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu te souviens ce jour où tu lui as dit « Écoute, j'ai envie de créer une blockchain ». Est-ce que tu veux travailler avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Quel a été le processus?
Oh, mais, non, mais j'ai toujours eu des petits projets personnels, etc. Donc moi, c'était juste un autre projet personnel. C'était vraiment un hobby. Donc elle s'est dit voilà, c'est un hobby de plus. C'est tout. Et puis elle m'a rejoint un petit peu.
C'est
plus
un
tard.
Hobby quand même qui, à travers sa fondation, a levé 230 millions de dollars.
Et donc, ça a pris de l'ampleur, on va dire, entre 2014
oui.
et 2017.
Et justement, par rapport à cette ampleur que ça a pris, donc devenir entrepreneur crypto, qu'est-ce que ça a changé à ta vie par rapport à ta vie d'avant? Qu'est-ce que ça a changé à votre vie, finalement?
More money, more problems, on dit en anglais. Déjà, je suis devenu une figure semi-publique, ce qui était nouveau pour moi. Et ce n'était pas quelque chose... à laquelle j'étais nécessairement préparé. Donc, il y a eu cet aspect-là qui est très nouveau. Et puis, c'était un petit projet. Le but de cette fondation, c'était de lancer le réseau et d'avoir et de créer une base d'utilisateurs initiale qui pourrait bootstrapper un peu le projet par sa présence. Et ça a eu beaucoup plus d'ampleur que le projet n'avait été, que les structures, on va dire, de gouvernance n'avaient été conçues pour. Et résultat, je compare ça un petit peu à, il y avait de la mégafaune en Amérique du Sud avant l'arrivée de l'homme. Il y avait des sortes de paresseux géants, des gros animaux sans beaucoup de défense, parce qu'il n'y avait pas de prédateurs naturels. C'est comme si on prenait un animal comme ça et qu'on lâchait au milieu de la savane. Et donc, tout d'un coup, voilà, cette fondation qui se retrouve avec 200 millions, ça a attiré énormément de convoitises et ça a attiré énormément d'attaques de toutes parts. Et ça a mené finalement à 3 ans pour se démêler contre des attaques de gens qui essayaient de s'accaparer les fonds de cette fondation. Et ça a été beaucoup de batailles et ça a été très épuisant.
C'était un gros stress auquel vous ne vous y attendiez pas, en fait, du tout. C'était vraiment un coup de chance. C'était à la fois un coup de chance de lever autant d'argent, puisque ça allait pouvoir faire démarrer ou en tout cas pérenniser votre projet. Et en même temps, il y a eu toutes ces attaques. Et là, ça ne vous a pas un peu épuisé?
Non, ça n'a pas été très agréable.
Et comment on survit justement en tant qu'entrepreneur à 3 ans d'attaque?
Je pense qu'en fait, ce qui a facilité les choses, c'est qu'à un moment, la situation était tellement difficile qu'on s'est dit de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant. C'est-à-dire que de toute manière, soit on va de l'avant, soit on se fait complètement descendre et donc autant aller de l'avant et ignorer les obstacles. Et au final, c'est assez libérateur. Et puis bon, sinon, moi aussi, il faut mettre aussi les choses en contexte. C'est-à-dire que même dans les pires moments où je me disais c'est vraiment horrible, etc., je me suis dit ça a l'air terrible comme ça, mais au final, si j'avais une maladie grave, par exemple, ce serait beaucoup plus grave que ça. Voilà. Si je repense aussi, par exemple, aux choses qu'ont vécu ma famille le siècle dernier, c'est des bons problèmes à avoir. Ça m'a permis de relativiser les choses. Mais c'est vrai que on peut relativiser autant qu'on veut, hein, le stress c'est animal et on a beau essayer de rationaliser en disant oui, mais il y a des manifestations physiques du stress qui sont assez difficiles à vivre.
Comment ça s'est passé pour le couple à ce moment-là?
On avait quand même la tête dans le guidon, mais évidemment c'est pas facile de se retrouver plongé dans une situation comme ça, oui.
Vous en êtes ressorti plus fort. Et alors, après ça, ça a été quoi le dénouement? Et comment ça se passe pour vous, du coup, aujourd'hui?
On n'a pas encore de dénouement, puisque pour nous, le dénouement, ce n'est pas seulement d'arriver à avoir gardé gagné ses batailles. C'est aussi d'arriver à faire que tes os remplissent tout l'espoir que nous on a placé dedans. Et ces batailles ont évidemment affaibli le projet. Et maintenant qu'elles sont closes, il faut reconstruire.
Mais vous avez encore de l'énergie pour reconstruire, parce que vous avez encore beaucoup d'espoir en Tezos.
Il y a des réserves d'énergie, mais c'est vrai que ça, 3-4 ans comme ça, ça épuise, ça bombe dans les batteries. Donc, faut trouver des nouvelles sources d'énergie.
Qu'est-ce que ça serait le dénouement heureux? Si tu avais une baguette magique là et que tu pouvais dire, ok, allez, on repart à zéro, on fait notre levée de fonds, tout se passe bien, on en est où alors là, aujourd'hui, avec Tezos?
On est là, dans ces cas-là, on est la monnaie et la plateforme de contrat intelligent de choix qui est utilisée en priorité par n'importe qui veut construire une application ou utiliser une crypto-monnaie.
Justement, quand tu parles de créer une application, si j'ai bien compris, Kathleen, elle développe un projet de jeu vidéo sur l'application Tezos?
Oui, c'est ça. Donc, c'est un projet de jeux de cartes à collectionner.
Et donc ça s'adresse un peu à tout le monde?
Oui.
Comment est-ce que ça se passe? Parce que ça pourrait intéresser peut-être les enfants de nos auditrices et de nos auditeurs, des cartes à collectionner.
Effectivement, peut-être c'est vrai que c'est dommage que la plupart des jeux de cartes à collectionner avaient une composante qui était l'échange des cartes. C'est-à-dire que quand c'est principalement un modèle qui a été inventé par Magic the Gathering, d'une compagnie qui s'appelait Wizards of the Coast, qui a été inventé par un mathématicien. Et à l'origine, les enfants ou les adolescents ou même les adultes qui jouaient à ça se retrouvaient dans des boutiques de bande dessinée pour échanger des cartes. Et cet échange de cartes, c'est un aspect qui est fondamental dans le jeu. Et c'est quelque chose qui a complètement disparu quand le jeu est devenu digital. C'est-à-dire que sur les jeux digitales, maintenant, on peut acheter les cartes auprès de l'éditeur, mais on ne peut pas les échanger. Et je trouve que ça fait perdre une partie très, très importante du jeu. Donc oui, l'idée c'est de réintroduire ça dans ces jeux de cartes à collectionner. Et elle a créé ce jeu-là avec des gens qui faisaient tous partie du je sais pas comment dire en français, le Hall of Fame.
Avec toutes les célébrités.
Les célébrités du monde de Magic the Gathering. Donc ça c'est un jeu qui a été en développement maintenant depuis un petit bout de temps. Il y a eu un premier prototype qui a été testé et maintenant il y a une nouvelle version qui est en train d'être construite pour être plus jolie et plus rapide.
Donc ça c'est quand même intéressant parce que c'est une application qu'on ne connaît pas forcément. Tu vois, quand on parle des crypto-monnaies, on se dit oh, c'est juste de l'argent virtuel avec lequel ce que les gens se disent c'est pour acheter de la drogue et des armes. Et puis maintenant les consciences évoluent un petit peu et puis là on se rend compte que sur une blockchain on peut créer des cartes à collectionner.
Oui, absolument.
Et qu'est-ce qu'on peut créer d'autre sur la blockchain Tezos? Donc, tu parlais des contrats intelligents, mais il y a quoi d'autre qu'on pourrait imaginer?
Alors, un contrat intelligent, ce n'est pas forcément… Le mot est parfois un petit peu malheureux parce que ça décrit beaucoup de choses, notamment des choses que les gens ne verraient pas comme un contrat. Par exemple, tout le mécanisme de cartes à collectionner, ça fonctionne sur les contrats intelligents, même si ça n'a pas l'air d'être quelque chose de contractuel directement. Ce qu'on peut construire, ce sont des échanges décentralisés, c'est-à-dire quand les gens ont des actifs, ça permet aux gens d'échanger leurs actifs, ça permet de créer des produits dérivés sur ces actifs de manière assez naturelle. Donc ça permet tout ce genre de, tout genre de choses-là. Ça, les gens l'utilisent aussi pour faire... Alors, il y a des cas d'utilisation qui me paraissent un peu moins crédibles, mais que les gens aiment bien quand même, comme faire de la traçabilité sur les biens ou comme faire de la notarisation. Mais personnellement, je pense que les cas les plus intéressants sont tous les cas qui ont à voir avec des actifs. Donc, par exemple, un jeu vidéo, bah, c'est quand même des actifs, ces cartes-là. Des actifs financiers, de la tokenisation, par exemple, c'est-à-dire de la... On représente des biens immobiliers fractionnaires, par exemple sur la blockchain, ou des biens actions, ou des biens obligataires. Et puis, une fois que c'est sur un réseau où on peut programmer des flux financiers, ça veut dire qu'on peut programmer, par exemple, un contrat qui va échanger une partie d'une obligation contre une partie d'un portefeuille immobilier. Et ces choses-là peuvent se composer entre elles, ce qui donne une certaine fluidité au système. Donc pour moi, c'est le cas d'utilisation le plus important. Je pense que les jeux aussi sont un cas d'utilisation très important. Puis après, bon, ça se décline dans beaucoup d'idées.
Est-ce que tu penses que des gens comme moi, monsieur et madame tout le monde, peuvent déjà comprendre et utiliser du coup ce type de service?
Alors, faire des choses comme des paiements, par exemple, c'est relativement facile. Il y a beaucoup de portefeuilles de crypto-monnaies qui existent. Il y en a un. Par exemple, sur Tezos, il y en a un qui s'appelle Kukai qui vous permet de faire de recevoir ou de payer en Tez avec juste une adresse Gmail ou un compte Twitter, par exemple, et qui facilite la gestion des clés. Donc ça, ça permet d'avoir une expérience utilisateur qui est assez simple. Après, pour les applications un petit peu plus compliquées, je pense que ça est en train de s'améliorer beaucoup dans l'écosystème. Les gens produisent des produits de meilleure et meilleure qualité qui sont de plus en plus faciles à utiliser, même si aujourd'hui, ça reste assez technique d'utiliser ces choses-là.
Et tu penses que c'est pour bientôt, alors, cette adoption de masse, entre guillemets, avec le fait que ça va se démocratiser et que toutes ces applications vont être plus faciles à prendre en main ?
Je pense que, en fait, le jour où ça se démocratisera complètement, les gens ne sauront même pas qu'ils sont en train d'utiliser une blockchain. Ça sera utilisé par l'application sur laquelle ils sont. Et il ne sera pas question de blockchain, il ne sera pas question de clé ou quoi que ce soit. Ce sera juste derrière, en arrière-plan.
Et est-ce que tes proches, donc vraiment ta famille, tes amis, comprennent vraiment ce que c'est, qu'est-ce que tu fais comme job et qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies et est-ce qu'ils te regardent encore
Non, je pense que je les bassine suffisamment avec pour comprendre maintenant.
Et justement, quand tu arrives dans une soirée, par exemple, et qu'on te demande, toi, tu fais quoi dans la vie ? Comment est-ce que les gens réagissent ?
Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une soirée.
Ah oui, tu vas... Pourquoi ? À cause du Covid ? Oui, mais bon.
Et même avant ça, ça a été des années difficiles. Ça a été vraiment pour moi que du boulot sur les dernières années. J'ai pas eu beaucoup de temps pour socialiser. Mais bon, ça viendra.
Mais quand tu as l'occasion d'y être, est-ce que les gens du coup ne te regardent pas comme un ovni quand tu dis oui, moi je bosse dans les cryptos, je suis un entrepreneur crypto, je fais ça?
Ma femme, pour éviter ça, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit je travaille sur des logiciels de comptabilité, ce qui est vrai. C'est ce qui arrête la discussion tout de suite.
C'est vrai que c'est pas aussi sexy que de dire je suis un entrepreneur crypto.
Logiciel de comptabilité, très bien. J'en dis, ah d'accord. C'est bon aujourd'hui.
Oui, effectivement, les gens se retournent, et prennent un verre et partent.
Voilà.
Mais du coup, est-ce que tu t'es quand même rendu compte au fur et à mesure, au fil des années, que les gens comprenaient de mieux en mieux ce qu'était la crypto ? Est-ce qu'ils étaient de plus en plus intéressés aussi ? Est-ce qu'ils posaient plus de questions ?
Ah oui, oui. Oui, bien entendu. Après, ça dépend. C'est en général corrélé au marché. Hein. C'est-à-dire que quand les marchés sont haussiers, les gens sont... Pose beaucoup plus de questions. Quand les marchés sont baissiers, c'est c'est toujours un truc la crypto. Je pense qu'il faut être si on veut construire et si on veut développer, il faut être capable de se détacher un petit peu de ça, pas complètement, mais il faut prendre un petit peu de recul.
Et est-ce que tu utilises la crypto-monnaie au quotidien pour, je sais pas moi, payer ton loyer ou un sandwich à midi?
Il y a assez peu finalement de ça. Il y avait toute une vague de commerce qui acceptait des crypto-monnaies. Ça a beaucoup décliné. Les gens les utilisent plus en fait comme des réserves de valeur aujourd'hui ou des mécanismes pour accéder à des applications sur les chaînes que pour des paiements classiques. Mais oui, j'ai régulièrement fait des, fais des paiements en crypto-monnaie. C'est-à-dire que si j'ai des amis qui utilisent des crypto-monnaies, pour moi, c'est beaucoup plus simple de leur envoyer une crypto-monnaie que d'aller faire un virement bancaire.
Comment tu expliques que ça a décliné toutes ces applications qui permettaient de payer en crypto?
Il y a deux choses. D'une part, c'est que les frais ont commencé à augmenter. C'est-à-dire les frais de transaction sur Bitcoin étaient très faibles au début, puis ça a commencé à augmenter. D'autre part, ça n'avait pas un intérêt direct. C'est-à-dire que c'était amusant, mais finalement, aller payer son croissant avec un Bitcoin ou avec un Tez, au final, les gens se disent « mais qu'est-ce que ça m'apporte par rapport à utiliser du cash ?» Et en plus de ça, pour le marchand, ça lui crée des complications. Parce que peut-être que sa banque n'est pas content qu'il accepte des crypto-monnaies. En plus de ça, il faut qu'il passe en général, ils vont passer par un système qui va transformer ça en du cash parce que sinon, ils ont des questions de taxation. Il y a aussi des questions de taxation pour chaque personne qui paye. Donc, ça dépend des juridictions, évidemment. En Allemagne, par exemple, il y a des exemptions. Mais dans un pays comme les États-Unis, si j'achète un croissant à 2 euros avec du Bitcoin, eh ben, c'est une entrée sur ma déclaration d'impôt. Voilà, j'ai fait une vente de cet actif, voilà, les gains réalisés à ce moment-là. Donc, c'est pas pratique pour ce genre de choses-là. Il y avait des niches qui étaient potentiellement intéressantes. Donc, les cartes de crédit aux États-Unis, c'est très facile de contester les achats. C'est-à-dire que les gens peuvent acheter un ordinateur sur Internet et dire à la banque que ce n'était pas moi. Et en général, les banques ont tendance à croire le client, ils ne font pas trop souvent, on va dire, et c'est une perte pour les vendeurs. Et du coup, il y a des surcharges en général de quelques pourcents sur les prix en ligne à cause de cette fraude. Et donc, pour un marchand, la possibilité d'accepter une monnaie comme Bitcoin ou Tez, par exemple, où le transfert est final une fois qu'il est fait, ça leur permet de se protéger contre le risque de fraude et donc d'avoir des coûts un peu plus bas. Donc, il y a quelques marchands qui ont commencé à le faire, mais c'était surtout une curiosité plus que vraiment un besoin.
Mais si ces marchands ne rentrent plus dans le game, entre guillemets, est-ce que les crypto-monnaies ont vraiment encore un sens si on ne peut pas les utiliser?
Mais on peut les utiliser, c'est juste qu'ils ont un sens un petit peu différent. Donc, si on regarde la monnaie, par exemple, il y a trois fonctions de la monnaie principale. La première, c'est la réserve de valeur. La deuxième, c'est les moyens d'échange. La troisième, c'est l'unité de compte. Donc, unité de compte, on en est loin. Les crypto-monnaies sont sont un petit peu trop volatiles pour être utilisées comme une bonne unité de compte. Moyen d'échange, c'est possible, mais encore une fois, c'est plus limité. Quoique, hein, c'est-à-dire, par exemple, ça a trouvé sa place pour des paiements qui traversent les frontières de manière assez facile, c'est-à-dire envoyer de l'argent rapidement sans compte en banque, c'est quand même quelque chose qui peut être pratique dans certains cas, mais pas pour aller acheter un croissant. Par exemple, il y a des dissidents politiques qui sont persécutés par des gouvernements et qui peuvent être plus facilement financés par des crypto-monnaies que autrement. Donc, ça résout des problèmes de paiement effectivement pour certains groupes qui sont marginalisés, mais c'est limité, c'est-à-dire que c'est pas je vais acheter mon croissant. Et en revanche, l'aspect réserve de valeur, il est important, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont vu dedans une protection contre l'inflation, notamment cette année avec la quantité incroyable de d'argent qui a été imprimé lors de la crise du Covid.
Exact. Mais donc, tu ne crois pas dans le fait d'utiliser les cryptos dans une utilisation quotidienne, quoi?
Si, je pense que si, mais je pense qu'il faudra qu'il se fasse plusieurs choses pour ça. Une stabilisation des cours ou alors une utilisation de monnaies sur les crypto-monnaies qui sont stabilisées pour ne pas avoir quelque chose qui fluctue à chaque fois. De meilleures interfaces pour les applications et plus de rapidité et des frais plus bas. Ça, si on arrive à ça, effectivement, il y a peut-être une solution. Mais je veux dire, aujourd'hui, les paiements, ça fonctionne très, très bien. Enfin, moi, sur mon téléphone, par exemple, j'ai ma carte bancaire et j'arrive chez un marchand, je tape mon téléphone sur le comptoir et c'est réglé en une seconde. Donc, bon, en termes de personnellement, ça ne m'apporterait pas grand-chose, ce paiement-là, qu'il soit fait dans une crypto-monnaie. En revanche, le jour où j'ai envie d'acheter un billet d'avion en ligne, par exemple, et que je mets ma carte de crédit et que le truc il commence à m'afficher « Verified by Visa », pour moi, ça veut dire… Le symbole « Verified by Visa », il veut dire prépare ton téléphone, la transaction ne va pas marcher, il va falloir aller au téléphone pour expliquer pourquoi il faut faire marcher la transaction. Ça, c'est extrêmement frustrant. Donc, moi, je serais très content de payer mes billets d'avion, par exemple, en crypto-monnaie, parce que l'expérience de payer des billets d'avion en ligne, en général, elle est assez mauvaise pour moi. Tandis que l'expérience d'acheter un croissant, elle est assez, j'ai pas de problème avec.
D'accord. Mais du coup, tu conseilles quand même à tout un chacun de posséder des cryptos?
Non, je pense que les gens doivent prendre leurs propres décisions et je donne pas des conseils financiers aux gens
sur leur portefeuille. Non, effectivement, ça, je pense que tu as tout à fait raison. Mais quels seraient les conseils, par contre, que tu pourrais donner à ceux qui aimeraient se lancer?
Je veux dire, au minimum, essayer, c'est-à-dire installer un portefeuille, essayer un petit peu. Je veux dire, indépendamment de l'aspect, on va dire, portefeuille sur lequel je ne vais pas me prononcer, c'est bien d'essayer un petit peu pour voir comment ça fonctionne. C'est d'avoir cette curiosité, oui, ça je le recommande.
Ok, super. du coup, alors, ah oui, tu penses quoi du Bitcoin là, à 50 000 $, presque 50 000 $?
Oui, c'est il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et donc il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix monte. Je pense que ça a été précipité en grande partie. Enfin, j'ai pas la boule de cristal complète, et c'est toujours facile d'écrire des histoires pour rationaliser un petit peu ce qui se passe. Après coup, hein, c'est ce que font les journalistes financiers. Mais bon, de manière générale, je pense qu'il y a une grande partie de ça qui est liée au fait qui est liée à l'expansion monétaire conséquente, hein, qui a eu lieu cette année, couplée au fait qu'il y a eu une adoption institutionnelle qui a un petit peu validé le principe. Par exemple, ce qui a clairement eu un effet, je pense, sur le cours de Bitcoin hier ou c'est l'annonce que Tesla, par exemple, avait acheté à son compte 1,5 milliard de Bitcoin. Donc ça montre, regardez, c'est pas juste des glandus sur Internet qui achètent ça. Il y a aussi des compagnies d'assurance qui ont commencé à acheter du Bitcoin. Donc il y a eu un petit peu tout cet effet-là. Et puis il y a un effet, en un sens, il y a un effet un peu boutonnier qui est positif. C'est-à-dire que si les gens commencent à le faire, les gens disent « Ah bah oui, effectivement, il faut le faire, etc. » Et c'est comme ça que des réserves de valeur comme l'or, par exemple, aussi, prennent de la valeur, parce qu'elles commencent à former un effet de réseau en tant que réserve de valeur.
Mais donc, ça vaut quand même la peine qu'en plus de ces grosses institutions financières qui se lancent là-dedans, que nous aussi, entre guillemets, le peuple, on regarde, on jette un œil, on tienne ça de près, donc à l'œil, et qu'on, pourquoi pas qu'on investisse aussi.
Un des grands avantages des crypto-monnaies par rapport à d'autres systèmes, c'est que c'est vraiment des systèmes ouverts, c'est des systèmes qui ne privilégient personne. Ce sont des systèmes qui sont assez neutres, et donc... Tesla peut utiliser du Bitcoin s'il veut, et n'importe qui peut utiliser du Bitcoin s'il veut, ou du Tez, ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Donc, c'est un système qui est ouvert.
Et tu penses quoi du fait que, par exemple, Facebook veut aussi lancer sa propre crypto-monnaie? Comment ça va nous impacter?
Ben, moi, finalement, on en a parlé beaucoup, mais Facebook avait un mécanisme. Dans Facebook Messenger, il y a un mécanisme pour envoyer de l'argent que les gens n'ont pas utilisé très souvent. C'est-à-dire qu'on déposait de l'argent sur Facebook avec son compte bancaire ou sa carte de crédit, et puis après, en utilisant Facebook Messenger, on pouvait envoyer de l'argent aux gens. Et ça n'a choqué personne. Et tout d'un coup, ils veulent faire ça sur une blockchain et c'est la fin du monde. Alors que finalement, ça change pas des masses par rapport à ce qu'ils avaient. C'est-à-dire que ça leur donne moins de contrôle dessus. Donc, comme ils ont moins de contrôle dessus, ça peut intéresser plus de gens comme système de paiement, mais au final, c'est pas très différent d'un système à la PayPal comme moyen de paiement. Donc, je pense que l'impact que Facebook pourrait avoir a été un petit peu surestimé. Il y a eu un petit peu une panique autour de ça, alors parce que Facebook est un peu le grand méchant loup des compagnies de technologie en ce moment. Alors. On va dire pas forcément complètement à tort, mais je pense que c'est aussi largement exagéré. Je pense qu'il y a une vérité qui est un petit peu au milieu. Et donc, je pense qu'on en a fait beaucoup sur Libra, alors qui est maintenant Diem, alors que fondamentalement, c'est pas si innovateur que ça.
Mais concrètement, c'était quoi leur avantage à utiliser une blockchain?
Il y a une partie qui est du marketing, on va dire. Mais je pense que leur avantage, c'était aussi de convaincre les gens, de dire, regardez, c'était de convaincre les gens qui n'allaient pas le contrôler. C'est-à-dire de dire, voilà, ce n'est pas contrôlé par nous. Vous faites vos transactions vous-même, on n'est pas la personne qui gère vos transactions.
D'accord. Parce que je ne voyais vraiment pas. C'est comme si PayPal disait moi aussi, je veux utiliser une blockchain, et que finalement, toutes les banques disaient on veut utiliser une blockchain. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi ils voulaient faire ça.
Effectivement. La question qui se pose, la différence, c'est qu'un paiement d'un utilisateur PayPal à un utilisateur PayPal, au final, c'est PayPal connaît exactement la transaction et applique cette transaction, tandis que sur une blockchain, potentiellement, il pourrait y avoir des transferts entre des utilisateurs de Libra qui ne sont pas forcément des utilisateurs de Facebook, mais même dans leur plan, ça avait l'air d'être comme ça. Donc, au final, peut-être pas grand-chose.
Alors, on arrive bientôt à la fin et je voulais revenir un peu sur ton bébé, sur Tezos. Donc, en fait, votre fondation, Tezos, a créé une ICO. En fait, le mot ICO, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans la cryptosphère. Je voudrais que tu nous en parles un petit peu. C'est quoi une ICO? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi vous en avez fait une? C'est juste un peu de pédagogie.
Oui, un petit peu. Déjà, j'aime pas le mot ICO. C'est un mot qui a été inventé dans des forums internet de fans de crypto pour faire genre. Ça veut dire Initial Coin Offering. Ça a été calqué sur IPO, alors que dans la plupart des cas, c'est assez différent. Notamment, par exemple, dans le cas de Tezos, il n'y a aucun coin qui a été offert, parce que ce n'est forcément pas possible. C'est-à-dire que sur une crypto-monnaie, ce qui fait la valeur d'une crypto-monnaie, c'est d'être utilisé, c'est d'être adopté par une communauté. Et tous les logiciels qui sont utilisés pour ça sont open source. Donc, au final, quand la blockchain Tezos s'est lancée, la monnaie elle a été créée au lancement de la chaîne par les utilisateurs de la chaîne en utilisant la chaîne. Donc, en aucun cas, on a pu leur offrir un coin. Mais bon, je tombe sur des arguments un petit peu pointilleux, mais je suis assez pointilleux, je suis assez pédantique, donc c'est pour ça que le mot mérite un petit peu. Je pense aussi que pour des projets comme... Donc Tezos, c'est une blockchain qui utilise la preuve à l'enjeu par rapport à la preuve de travail. Donc les crypto-monnaies de première génération, comme Ethereum et Bitcoin, utilisent du minage, c'est-à-dire qu'ils utilisent des grandes quantités d'électricité pour se sécuriser. En gros, ils disent, les gens qui vont sécuriser notre réseau sont les gens qui dépensent le plus d'énergie. Plus vous dépensez d'énergie sur Bitcoin et sur Ethereum, plus vous avez d'influence sur le consensus et sur la sécurité de la chaîne. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ça leur permet aussi de distribuer de manière initiale les jetons, c'est-à-dire que les gens qui arrivent et qui dépensent d'énergie sont les gens qui reçoivent les premiers jetons. Et donc, pour avoir plein de Bitcoin initialement ou plein d'Ether, il faut dépenser plein d'électricité. Tezos fonctionne différemment, Tezos fonctionne sur la preuve à l'enjeu. Donc la preuve à l'enjeu, ça consiste à dire, plus les gens détiennent de jetons, de coins, hein, plus ils ont d'influence sur le consensus. Alors le consensus, ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement très politique, hein, c'est juste de dire quelle transaction est venue avant quelle transaction. Donc c'est pas une question d'opinion, c'est une question de sécurité. Donc c'est à qui on fait confiance pour sécuriser le réseau. Est-ce qu'on fait confiance pour sécuriser le réseau aux gens qui dépensent le plus d'énergie, ou est-ce qu'on fait confiance aux gens qui détiennent le plus de monnaie? Donc Tezos se base sur le second principe, ce qui lui permet de ne pas avoir de très grandes dépenses d'énergie, et donc la sécurité coûte moins cher. En revanche, comment avoir une base d'utilisateurs initiale? Comment avoir un grand nombre de personnes qui détiennent la monnaie s'il n'y a pas ce mécanisme de minage? Et donc une solution pour ça, ça a été ce modèle où des gens pouvaient contribuer à une fondation à but non lucratif. Et quand le réseau a été lancé, cette fondation a proposé une allocation initiale en disant ben voilà le logiciel, et on propose que cette allocation initiale reflète les contributions qui ont été faites à cette fondation. Donc ça, pour moi, c'est un modèle qui est très utile pour lancer une crypto-monnaie qui est basée sur la preuve à l'enjeu. Il n'y a pas beaucoup d'autres méthodes pour lancer une crypto-monnaie basée sur la preuve à l'enjeu. En revanche, ce qui a attiré l'intérêt de la presse et du public, etc., ça a été plutôt sur le concept d'ICO comme mécanisme de levée de fonds. Et en fait, pour moi, ce mécanisme de levée de fonds, il est complètement secondaire à la question. Le plus important, c'est forcément d'avoir un modèle de distribution d'une crypto-monnaie, mais en tant que mécanisme de levée de fonds, il ne me paraît pas particulièrement intéressant par rapport à des mécanismes de levée de fonds traditionnels.
Pourquoi?
Parce que je pense qu'il a le modèle que beaucoup de le compagnon a adopté et qui est très, très différent du lancement d'une crypto-monnaie, c'était de dire on va vendre des services. Et donc, plutôt que de se financer en émettant, on va dire, de la dette ou des actions, on va se financer en tant que compagnie en émettant des jetons que les gens pourront utiliser contre nos services. Et donc, on va vendre nos jetons de manière initiale, c'est-à-dire on aura une limite sur la quantité de jetons. Et les gens vont utiliser ces jetons après pour vendre notre service. La différence, c'est que donc des préventes, c'est pas nouveau. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de livres, beaucoup de jeux vidéo ont ce concept d'acheter une prévente. Mais ce qui était nouveau, c'était la prévente avec une composante parfois de spéculation, où les gens se disaient en fait, j'ai pas envie d'utiliser le service, mais je vais accéder à la prévente parce que peut-être que d'autres personnes voudront le service et que je leur vendrai à elles. Donc ça, c'était un petit peu le concept de lever de fonds d'ici, qui encore une fois est très différent du lancement d'une crypto-monnaie. C'est pour des jetons qui sont liés au service d'une compagnie, par exemple. Et finalement, je trouve que dans la plupart des cas, le modèle économique ne tenait pas la route. C'est-à-dire que la compagnie, en général, va avoir une incitation à ne pas accepter que la crypto-monnaie qu'elle a émise, mais d'autres mécanismes. En général, c'est de dire « Ah, vous paierez pour nos services dans cette crypto-monnaie », ce qui n'a pas beaucoup de sens puisqu'il y a des problèmes de liquidité, mais puisqu'il y a des variations de prix. Donc, d'un point de vue économique, ça ne marche pas tellement. Et pour moi, une manière de le faire, si on veut lever des fonds, ce qui est pérenne, hein, comme méthode de lever de fonds, c'est une méthode où les gens qui lèvent des fonds ont des droits économiques sur l'activité qui s'ensuit. Et c'est pas quelque chose qui est le cas dans les jetons cryptographiques. C'est quelque chose qui est le cas dans les actions. Donc si j'ai une action, j'ai un droit, c'est-à-dire j'ai un droit des dividendes, j'ai un droit à des droits de liquidation de la compagnie ou si la compagnie est acquise. Si j'ai de la dette, j'ai le droit des coupons, j'ai le droit principal. Donc ça représente une relation. Dans les deux cas, c'est une forme de créance, on va dire, mais ça n'est pas le cas pour ces jetons, et du coup, je pense que ce ne sont pas des bons véhicules pour ça, nonobstant l'engouement qu'il y a eu autour de ces ICO en 2017.
Maintenant, on n'entend plus tellement parler des ICO dans le monde des cryptos.
Oui, parce que finalement, les gens se sont rendus compte que c'était pas. Il y avait un petit peu une idée de dire que, parce que c'est un bon projet, cette ICO est intéressante, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que les gens peuvent développer tout à fait un bon projet et le jeton qu'ils ont mis à côté n'a rien à voir. Il y avait ce concept de dire, tiens, voilà quelque chose d'intéressant, il y a un jeton qui est assis à côté, donc comme c'est intéressant, le jeton est intéressant, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parfois, ce jeton, c'était un petit peu comme un jeton pour passer un péage au milieu d'un grand champ ouvert où il y a pas besoin de, où on peut passer à côté de la barrière.
Eh bien, merci pour toutes ces petites précisions. Alors, on va terminer cet entretien avec un petit jeu que j'appelle les questions rafales. Si tu veux bien, je vais te poser presque une dizaine de questions. Il faudra me répondre du tac au tac.
Et elles sont toutes sur l'avion rafale.
Elles sont toutes... Non, non, non. Tu vas voir, c'est plutôt sur toi pour apprendre un petit peu à mieux te connaître. Et après ça, je te libère.
Merci.
Alors, est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Alors, quelle est la première chose que tu fais le matin en te réveillant ?
Je me brosse les dents.
Bitcoin ou altcoin ?
Tezos.
Eh bien répondu. Je m'attendais à celle-là. Paris ou New York ?
New York.
Crypto par passion ou par opportunité d'affaires ?
Passion.
Si tu avais 100 000 euros à investir demain, tu en fais quoi ?
Bonne question. Venture Capital.
Quel livre lis-tu en ce moment ?
J'ai relu hier Conscious Business de Fred Kaufman.
Qui faut-il suivre en 2021 dans la cryptosphère ?
Moi. Suivez-moi. Arthur B. sur Twitter.
Et on peut aussi dire Kathleen Bretman.
Oui, bien sûr, Kathleen Bretman. Non, mais Kathleen est beaucoup moins active sur Twitter que moi.
Quel est ton motto, si tu en as un ?
J'aime bien le motto de Kant, au savoir.
C'est quoi la dernière chose que tu fais avant de t'endormir ?
Du coup, de la musique.
Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ?
Beaucoup de réussite.
Eh bien, Arthur, un très grand merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je te souhaite évidemment beaucoup de réussite pour la suite de cette aventure passionnante et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, Roxane. Bonne journée.
Cet épisode est bientôt fini et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fait toujours très plaisir. Sur ce, j'ai hâte de vous retrouver dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Plan B. Et comme d'habitude, n'oubliez pas vos clés, pas vos bitcoins.